France Inter.
Oui, c'est la bande originale avec Léa Zouz, avec Lisa Desmoitiers, avec Laura,
bonjour,
avec Bruno Pé,
bonjour,
avec Tanguy Bassureau, avec Laura,
bonjour,
avec Laurent Morin, et
France Inter. Bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Bienvenue, Félix. Qu'est-ce qu'il y a, Félix ?
Bon, si ça commence.
Ça commence, mais il pose la question à sa réalisatrice. C'est-à-dire que même en radio, c'est elle qui décide si on y va ou pas.
Action, Félix.
Ah, ok, je peux commencer alors.
Tout va bien, Maya ? Tout va bien, Félix ? Ravi de vous accueillir.
Oui,
ce film est superbe. Il s'appelle Mikado, qui est le surnom d'ailleurs porté par le personnage de Félix Moati, mais qui parle également de la scolarisation ou des laissés pour compte. On va voir par quel prisme vous avez voulu prendre cette histoire. Petit tour de table pour les bonnes raisons de ne pas aller à l'école. Les bonnes raisons, puisque l'école est obligatoire, je le rappelle, c'est dans le film, c'est l'un des points de départ, justement. Est-ce que vous avez séché des cours, Laura ? Est-ce que t'as imité la signature de tes parents, par exemple, pour pas aller à l'école ?
Bah bien sûr. Ah non, quelle est la question, Nagui ?
Je ne la comprends pas.
Est-ce que dans ton histoire, tu as trouvé des bons prétextes pour sécher les cours, pour ne pas aller à l'école ?
Constamment. J'organisais carrément des manifs, des sittings dans la cour de récré. Donc j'arrivais à convaincre en plus énormément de gens dans ma classe et dans les classes
de faire grève.
De faire grève, ouais, dans la cour de récré. Pour plein de choses, j'avais plein de revendications.
T'as pas fait des fausses alertes à la bombe pour faire évacuer le bahut ?
Non, pas du tout, mais c'était à l'époque du CPE, tout ça. Donc voilà.
Ouais, ouais.
Et on nous avait interdit le droit de manifester. Et même je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, cette manif, j'étais là, on n'a pas le droit de nous interdire de manifester, donc on va manifester dans la cour.
Ouais.
Lisa, est-ce que toi tu as fait des faux mots d'excuses pour...
Fille de prof, premier degré, fan de l'école.
Ah ouais,
pas cool. Une fois dans ma vie, je me suis laissé convaincre de sécher un cours. Et finalement, on allait chez une copine, on a regardé un film. Je me suis dit, c'est nul.
L'école me manque. Ouais. Leïla, t'as jamais fait de faux mots ou de faux...
Alors j'ai confiance en moi dans la vie, mais pas suffisamment pour flouer mes parents. Donc en fait, si tu veux, vaut mieux. Il y a des risques qui sont inconsidérés. Donc en fait, pourquoi les prendre ? Prenons-les ailleurs, mais pas pour l'école.
Ah, moi j'ai séché en imitant la signature de mes parents et en me faisant gueuler comme une merde derrière.
Voilà, c'est ça. Il faut du génie, j'en avais pas.
Bah moi non plus, la preuve. Tanguy ?
Jamais, non, je suis comme Lisa, moi. Non, j'aimais bien l'école et j'étais plutôt heureux à l'intérieur de l'établissement scolaire la plupart du temps, donc...
Ok, ouais. Oldelaf ?
Moi, même en fac, j'ai pas séché, donc c'est pour te dire que... Mais je l'ai fait une fois, j'ai fait un FOMO une fois pour aller jouer au tennis.
FOMO,
voilà. Donc ça, c'était...
Moi, en fac, c'est l'inverse. Je n'ai eu aucun cours tellement il y a eu grève. J'ai passé une année entière en fac de sciences. Il n'y a jamais eu de cours. Jamais.
Une année blanche.
Total. Daniel ?
Ouais, moi j'adorais l'école. Et du coup, c'est ma mère qui me disait, mais t'es pas mon fils, c'est pas possible. Sèche, amuse-toi.
T'as jamais séché, non ?
Non, mais j'adorais.
Ah. Bruno Pecky, tu vas encore à l'école.
Je peux pas le dire. Il y a mes profs qui écoutent.
À chaque fois.
Oui, voilà, donc je peux pas. Non, oui, j'ai beaucoup loupé à cause du sommeil.
Voilà. Ah oui.
Je m'endormais.
Ah, l'excuse, le réveil n'a pas sonné.
Ouais, non, mais c'était vrai. Et vraiment, je faisais une grasse mat, et tu vois.
Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas vraiment une excuse.
Non, c'est pas une excuse valable, mais j'ai loupé des cours.
T'étais déjà en Suisse, parce que normalement, les horaires.
C'est un peu votre truc, les montres.
Totalement.
Votre troisième film, Maya. Ah oui, est-ce que vous avez séché Félix ?
Moi, peut-être que mes parents m'écoutent, alors je vais rien dire.
C'est le moment.
Non, vraiment, moi, j'adorais l'école. J'y allais consciencieusement. Bon, parfois, j'ai séché quelques cours de sport, j'avoue, quand il y avait natation, parce que j'avais honte. Enfin. Ça se voit pas aujourd'hui avec mon corps si athlétique, mais j'avais un peu honte, en effet.
Genre de se retrouver en maillot, quoi.
Ouais, le slip de bain, c'est quand même une épreuve.
Ouais. Il y avait la gêne, ouais.
Ouais, le slip de bain, je sais pas, c'est l'épreuve. C'était la douche commune qui était...
Moi, j'ai eu beaucoup mes règles.
J'aimais bien.
Ouais, c'est ça. Excuse. Cette phrase beaucoup trop sortie du contexte, c'est ça.
Pardon, c'est ça.
Baya, vous et l'école,
moi, j'ai commencé l'école au CP, donc j'étais un peu...
Comme nuage.
Ouais, un peu.
Tardivement.
Ouais, presque, mais je me sentais très très chelou. Je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. J'allais pas à la cantine en plus, et ça.
Ouais.
Ah oui. C'est dur pour s'intégrer, ouais. Se faire des potes.
Donc on n'est pas loin de votre histoire avec ce film.
Disons que je connais l'expérience de Nuages un petit peu.
Mais c'était pas obligatoire.
C'était obligatoire à partir de 6 ans.
De 6 ans, donc.
Mais
en fait,
mais les enfants, ils avaient la maternelle derrière eux, donc ils étaient aguerris. Et donc voilà, j'étais assez décalée, ouais.
Mikado et Laetitia vivent avec leurs enfants. On comprend très rapidement, dès le début du film, que ces enfants sont cachés à l'administration. On va dire, on va employer ce terme-là.
Ils n'ont pas déclaré la naissance.
Ouais. Voilà, ils ne sont pas des enfants volés, sont pas des, mais en tout cas, ayant chacun une histoire très particulière avec l'éducation, avec les familles d'accueil, avec presque la société, ce que les lois imposent et décident. Ben Mikado, lui, a décidé de vivre en parallèle sa vie en disant « Ok, le système ne m'a pas fait du bien, donc je vais protéger mes enfants en les mettant pas dans le système. »
Ouais, exactement. Il a pas confiance. Enfin, on sent qu'il est le moteur principal de cette histoire, de cette fuite en avant.
On sait pas au début ce qui s'est passé. On l'apprend au fur et à mesure du film.
On découvre au fur et à mesure. Bon, maintenant, on a tout raconté, mais non.
Non,
non, c'est pas vrai.
On n'a pas tout raconté.
Non, pas du tout, justement.
Si vous voulez que je raconte tout, moi, je vais vous dire. Si ça se passe à Marseille.
Alors la première scène. Non, c'est vrai que il a pas confiance dans les institutions parce qu'il a été brinque-ballé et que voilà, c'est une famille dont les parents n'ont pas eu beaucoup de chance au départ et en même temps qui crée une utopie.
Oui. Une utopie qui l'arrange, c'est-à-dire que les laisser dans une forme d'ignorance, c'est aussi ne pas voir ses enfants vous dépasser, accéder à des choses auxquelles nous-mêmes on n'a pas accès. Donc il y a quelque chose d'à la fois très, très protecteur et très égoïste.
Les livres sont là aussi, il y a aussi l'éducation.
Ne pas vouloir que ses enfants partagent le même temps que les autres, c'est aussi les priver de beaucoup de choses.
C'est ça, mais je pense qu'ils le découvrent au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour eux, ils les protègent. Enfin, je pense que quand on élève des enfants, très souvent, on essaye de rattraper les propres souffrances de son enfance et on se dit, on va leur éviter ce qui nous est arrivé. Je veux surtout pas que mon enfant vive la même chose que moi.
Oui.
Et ça, ils y arrivent, mais du coup, ils se rendent pas compte que de l'autre côté, leurs enfants ne sont pas regardés par les gens et par la société.
On va en parler jusqu'à midi et demi de ce film Mikado, mais d'abord, celui qui est fan de vous, Baya et Félix, c'est Holly Delard.
Évidemment.
Je suis fan de Félix Moati, c'est vraiment un acteur de génie. Mais à côté, il est réalisateur aussi. En fait, il se partage, il fait moitié-moitié. Je suis fan de Baya Kasmi. On veut que tout le monde retienne enfin ce nom, Kasmi. Mais on va parler aussi d'un truc moins rigolo. On veut savoir ce qu'est devenu Casse-moi sur ce bateau. Et vous êtes là ensemble pour le film Mikado. C'est le personnage de Félix qu'on nomme Mikado. Il joue avec des Mikado, il les tripote. Alors Baya, faites pas de film sur Truman Capote. Ouais, je suis fan du film, il est vraiment mignon. Vous vivez à 4 serrés dans un camion. C'est un peu comme du camping qui aurait dégénéré. Ça vous empêche pas avec votre femme de vous aimer. Ouais. Ouais, ma Laetitia, ma Lélé, je veux vraiment te balancer un big up. C'est vrai qu'on est un peu clodo, un peu zonard, mais aussi pour faire plaisir à Léla, parce que je suis fier vraiment d'avoir une femme like toi, mais une famille like nous. Donne-moi une fille, Lélé, fils Lélé. Je prends moins de douche qu'un punk, un fuck Lélé. Je poque Lélé, chante avec moi. Je veux une famille like nous pour l'emmener au bout de mon famille like nous. Hey, donne-moi une famille, Lélé, un fils Lélé. Je prends moins de douche qu'un chien, Daniel l'été. Je mêle l'été, chante avec moi. Je veux une famille like nous. On va squatter chez Ramsey, une famille like nous. Hey, hey, hey. Ouais, je suis fan du film, mais il y a un gros défaut. Ce film est un bijou, mais reste quand même un Mikado. Vous êtes nos invités, on vous fera pas le mal. Bienvenue à nous avec la bande originale.
plus de transition.
Il y a plus de transition. Avant, il y avait des liens.
Il y a rien.
Il y avait des chevilles entre les trucs et là.
Recollez où vous voulez. Opération Brésil.
Parti au Brésil.
Le 12 avril à Lyon, le 18 à Orthez sur scène.
Bravo Olivier.
Ils sont donc dans leur van, dans leur camion, je sais pas, dans leur camionnette, aménagés en tout cas, comme si c'était une vie au début agréable, campagnard, au soleil. On est dans une chaleur libre, écrasante. D'ailleurs, je ne sais pas si la météo a été importante pour vous, mais on a l'impression que. On se demande si on est d'ailleurs dans les vacances scolaires ou pas. Ça fait naître le doute. Les enfants sont avec eux, peut-être parce qu'il n'y a pas école. Après, on comprend qu'ils ne vont pas à l'école.
Mais oui, c'était important pour moi qu'on sente aussi la sensualité de leur vie. Ils vivent dans la nature, dehors, et je voulais qu'on les envie un petit peu de prendre ces chemins de traverse, parce que nous, on a quand même des vies assez tracées, quoi. Et des fois, on aimerait bien vivre ça. Il faisait très très chaud.
Ce personnage, Félix Moati, c'est un écorché vif. Il est fou amoureux de sa femme. Il est très protecteur pour ses enfants. Alors protecteur, étouffeur. Est-ce qu'il les tient pour prisonniers ou au contraire, il se dit, le monde dehors est trop méchant, trop dur. Ouais. Comment vous l'avez interprété?
Juste avant de commencer le tournage, il y a les discussions entre les acteurs et les metteurs en scène. Oui, ça arrive de temps en temps. Et je dis à Baya, comment tu vois Mikado? Et elle m'a dit, cette phrase qui a été prépondérante ensuite et qui a guidé toute mon interprétation, elle m'a dit, c'est quelqu'un qui sent une menace permanente. En permanence, il sent la possibilité qu'on vienne lui enlever ses enfants, qu'on vienne lui enlever sa femme, et il vit dans cette menace permanente, qui est une menace complètement...
suspicion, c'est-à-dire que...
tout est un danger possible.
Qui que ce soit s'approche, une voiture est arrêtée sur le bord de la route, ou un regard un peu étonnant.
Exactement. Et tout est un danger potentiel, et il vit comme ça, comme un animal traqué en permanence, et ça a été très important pour moi que Baya me dise ça, et donc je l'ai joué ainsi.
Le paradoxe, c'est que ce qui se déclenche, ce que l'on voit dans la bande-annonce, donc je ne spoile rien, c'est qu'il va quand même s'arrêter pour dépanner Ramzi Bedia qui est arrêté sur le bord de la route.
Ouais, l'initiative de Vimala,
à son initiative, mais il y a aussi le fait que c'est un personnage ambigu moralement, c'est-à-dire, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui aime follement ses enfants et sa femme, mais qui en même temps exerce sur eux une véritable tyrannie. Ouais. Donc il y a une ambiguïté morale toujours de ce personnage. C'est ça que je trouve passionnant dans ce film, c'est que les gens, Baya filme ces personnages en embrassant leurs défauts et leurs failles.
C'est réussi, c'est super, vous êtes incroyable, Félix.
Vimala est dingue, les gosses sont... ça joue tellement bien, parce qu'il y a trois enfants au total, il y a deux filles, il y a avec une belle amitié qui va naître, Nuage et Théa, Nuage interprété par Patience Mutchenbach, qui est interprété par Saul Benchetrit, qui a dans son ADN quand même beaucoup de cinéma, de théâtre et d'interprétation aussi, entre Samuel, son papa, et sa maman aussi.
Anna
Mouglaïs. Et puis il y a Zéphir qui est interprété par Louis Aubry. Alors déjà, quand on voit des parents qui appellent leurs enfants
Zéphir.
C'est beau.
C'est beau, et ça veut dire qu'ils sont, ils sont connectés sur autre chose, sur la nature déjà, mais autre chose insaisissable.
Totalement. Mais je crois
en tout cas, ils rêvent de ça pour leurs enfants, je crois. Et évidemment, la réalité, elle est moins simple, elle est beaucoup moins simple. Et c'est vrai que le temps du film, c'est le temps où ils sont un peu rattrapés par le vrai monde et la réalité. Et ça devient à la fois une parenthèse enchantée, quelque chose de très doux chez ce personnage de Vincent qui est interprété par Ramzy et qui a ce côté où on...
qui est un prof.
Ouais,
il est un prof, donc français. déjà pour lui l'école c'est la base de beaucoup de choses.
Ah oui, c'est un antagoniste total.
Vous faites souvent de lui un littéraire.
Oui, j'aime bien.
Un auteur de romans.
Il est très littéraire.
Un prof de lettres,
Mais ça lui va bien les lunettes
aussi.
Ça lui
va très bien.
Il est très doux.
Ça lui va bien.
Il est beau. Et la chemise froissée.
Ouais, c'est ça.
Et le whisky.
Toujours le whisky.
Et une vie pas si simple que ça, en apparence, dans cette grande maison, dans la garrigue, tout ça, on pourrait se dire c'est complètement idyllique, mais lui aussi rencontre ses difficultés avec sa famille.
Oui, ces deux familles qui ont du mal à... il a du mal à communiquer avec sa fille.
Bah, chacun ses emmerdes, il le dit à un moment donné. Ouais. Tu crois pas que j'ai, c'est aussi dans la bande-annonce, tu crois pas que j'ai assez d'emmerdes pour pas m'en créer d'autres ou gérer les tiens. Une famille de quatre personnes se retrouve donc en panne parce qu'ils ont dépanné Ramsey, le personnage de Ramsey, et donc comme en retour, sans mauvais jeu de mots, de Manivelle, c'est de dire bah, puisque vous êtes en panne, bah, venez à la maison, puis on va se mettre dans un coin, on reste dans notre van, on va pas vous déranger. Et ces deux mondes vont coexister, à la fois une maison extrêmement cossu, extrêmement chic, extrêmement agréable, et puis en échange de peut-être d'un peu d'eau, un peu d'électricité, on peut aider, on peut tondre, on peut travailler, on peut rendre service, on peut dépanner, parce qu'il a un vrai savoir-faire dans la débrouille aussi, le personnage joué par Félix Moati. Sauf que ces deux univers, il y a un moment où il va y avoir un clash, donc c'est il y a comme un suspense et des rapports humains, des regards. Il y a beaucoup de silence, mais où tout est dit dans les regards, notamment entre les enfants.
Ouais, ça me touche parce que d'habitude, mes deux premiers films sont des comédies et j'avais pas ce temps-là parce qu'il fallait toujours l'abattage du rire.
Le tempo.
Le tempo, c'est un truc qui est assez précis. Et là, j'avais le temps de ces regards et c'est vrai que c'est des personnages qui se découvrent, qui s'observent et qui s'envient vachement, parce que les deux familles vont s'envier mutuellement, elles n'ont pas les mêmes problèmes, elles n'ont pas les mêmes qualités. C'est vrai que quand on rencontre des gens, il y a une beauté, il y a une beauté de ce qu'ils ont et qu'on n'a pas ce petit mystère. Ouais.
Il y a cette intrigue de savoir comment ils vont s'en sortir. Quand je dis ils vont, c'est les six, finalement, parce que tout le monde a ses galères, a ses problèmes et a ses repères. Vous vouliez faire un film sur, justement, l'intégration, comment vivre dans la société, comment être dans les clous, dans les normes, même si on n'est pas d'accord avec les codes qui nous sont inculqués.
Je sais pas si, en tout cas, moi, je suis pas partie de cette obligation de revenir à la vie normale. Je suis partie de l'enfance, en fait, des blessures de l'enfance et de comment on fait pour vivre avec ensuite. J'avais envie de décrire cette énergie qui est une sorte d'énergie du désespoir chez Mikado et Laetitia, mais en même temps qui est belle, quoi, qui est pleine de vie. J'avais envie de filmer ce moment très particulier chez une adolescente quand tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un qui lui fait réaliser que ses parents n'ont pas la science infuse et que le monde peut être vu autrement.
Il y a l'injustice qui est présente. Ils ont tous un sentiment d'injustice pour différentes raisons. Injustice de la vie, injustice de décisions prises par l'administration, injustice d'une bonne réponse mais qui est considérée comme mauvaise et donc là on pète un câble en disant mais non, c'est moi qui ai raison. L'injustice de perdre quelqu'un que l'on aime trop tôt, l'injustice de plus avoir sa maman pour une autre, enfin bref, tous sont en train de vouloir d'avoir des comptes à régler avec la vie.
Ils n'arrivent pas toujours à faire entendre leur voix. En tout cas, le personnage de Mikado, d'ailleurs le personnage de Nuage aussi, l'injustice c'est terrible parce que on essaye de dire, de donner sa version et quand il n'y a personne pour l'entendre, ça met en colère.
Et puis qu'est-ce que ça joue bien, encore une fois, Louis Aubry, Saul Benchetrit, Patience Muchenbach ou Ramsey Media évidemment, Vima Laponce formidable et Félix Moati, voilà, vous avez réussi un film, réussi une histoire, réussi un casting, tout est aligné en tout cas.
Bilan positif
pour ça. Oui, plutôt.
Ouais, ça fait vachement plaisir.
Mais ça doit être chouette de
Au cinéma,
je vois Baya, je me dis quel sourire comme ça. Ça doit être chouette de tourner avec quelqu'un comme Baya.
Avec Baya, c'est
j'imagine. Bah, alors, en tout cas, voilà.
Elle est juste à côté de moi, mais elle sait toute l'affection et l'admiration que j'ai pour elle, l'estime incroyable que j'ai pour elle en tant que réalisatrice. Je pense que c'est vraiment une réalisatrice importante dans le cinéma français. Et puis.
Et pourtant, elle vous fait passer pour un connard. Le nombre de connards que vous prenez dans le film.
Ouais. Non, clairement, mon personnage n'est pas immédiatement sympathique, en fait. C'est sûr, je suis d'accord. Baya sait filmer les gens avec une telle humanité. Et c'est un personnage. Et Baya embrasse, voilà, les failles, les défauts des personnages. Et je trouve ça intéressant qu'au cinéma on représente aussi des gens qui ont une ambiguïté morale et qui ne soient pas absolument irréprochables.
Ouais. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoitier d'abord. n'aurais pas fait ça comme ça, toi. Oh là là.
Non, en fait, je n'aurais pas osé. Mais merci pour votre honnêteté sur la famille Bayakazmi, parce qu'en ce moment, la question de fonder mon propre clan se pose. Il faut dire qu'autour de moi, tous mes amis semblent se reproduire plus vite que des cellules cancéreuses. Non, le diagnostic est tombé, la parentalité est généralisée, quoi. J'espère juste que la chimio marche aussi sur les vélos cargo. Et il y a une hypocrisie ambiante. Il y a une hypocrisie ambiante sur le soi-disant conte de fées assuré que ce serait la reproduction. Et du point de vue du géniteur, j'entends bien. Je peux imaginer la joie que c'est de fonder sa petite tribu. J'ai vu Pocahontas. Il y a un côté tribu indienne dans la famille, dans celle de votre film en tout cas. Hein. Pas de grand-mère feuillage, certes, mais la gamine s'appelle Nuage. On l'a dit. Nuage qu'on appelle en Bretagne ou en Belgique ciel. Il y a du bleu derrière. Je ne connais pas. Non, mais appeler sa gamine Nuage, franchement, sans blague que les parents l'ont pas inscrit à l'école. C'est moins une question de marginalité que de sécurité. Il faut savoir qu'en langage apache, nuage signifie harcelez-moi. Hein, voilà. Je ne vais pas l'expliquer. Hein, non, s'entend bien. Très beau prénom, mais les enfants sont cruels. Hein. Ils pourraient aller très loin pour la faire pleurer et pouvoir dire « Oh, regardez, nuage pleut ». Comme on dit en Bretagne ou en Belgique, « Oh, regardez, il fait jour ». Mais créer sa petite communauté avec ses enfants et son partenaire, ça doit être incroyable. T'as l'impression de créer ta propre civilisation avec tes propres règles, tes propres rituels. Par exemple, dans ma tribu, mes parents l'ont décidé, vendredi, c'est spaghetti. Bon, mais chez Arthur, vendredi, tout est permis. Bon, mais voilà, deux familles, deux ambiances. Chez moi, c'est plus strict. Hein. Avec un peu de souplesse, on peut ouvrir au Capellini, mais vendredi, tout n'est pas permis. Même pas les fusils, c'est vous dire. En fait, quand tes parents, t'es dictateur de ton petit empire, et je peux comprendre l'attrait. Moi, j'ai toujours voulu être dictatrice. Surtout pour la partie où on me renverse. Écoute chez moi. Mais du point de vue de l'enfance, c'est plus compliqué à gérer. Non seulement tes parents sont tes dictateurs, mais tu ne le sais même pas, parce que leur monde est le seul que tu connais jusqu'au moment où tu vas dormir chez une copine. Et tu comprends qu'il y a des maisons où l'enfant a le droit de toucher à la télécommande. 18 ans à passer mes dimanches après-midi à regarder des courses de cyclisme à la télévision, alors que mes copines regardaient T'es fou et KD2A. 15 ans plus tard, ça m'est resté. Dès que je croise un cycliste, je l'écrase. Et vous savez le sort que je réserve au vélo cargo. Et c'est le sujet du film Mikado, avec cette famille dont vous êtes le dictateur, Félix Moati, le père, Mikado. À nouveau, un prénom lourd à porter, mais c'est pas une raison pour se venger sur la gamine. Que je sache, Nagui a pas appelé sa fille Bagou, Guidon ou Gogol.
C'est pas gentil.
C'est une bonne idée.
Rebaptise tout le monde.
Et ce Mikado, il étouffe ses enfants d'amour, mais je vais vous expliquer, moi, ce que c'est d'être un bon parent.
Allez. Ah.
C'est noyer ton enfant d'amour tout en l'encourageant à te quitter le plus vite possible et le plus loin possible. En général, plus un enfant se casse loin, plus ça veut dire qu'il est tout fait avant. On juge son délire pour Mars, mais Elon Musk, c'est peut-être juste un mec qui a besoin de couper le cordon. Hein. Donc, chers enfants, quittez vos parents, partez devenir qui vous êtes vraiment loin du nid, et les parents, no stress. Si vous les avez noyés d'amour, ils reviendront quand ils se seront construits. Puis ils feront leurs propres enfants, qu'ils étoufferont aussi, parce que répéter des schémas foireux, bah, c'est ça le cycle de la vie.
Un papier à méditer, en tout cas, celui de Lisa Delmoitier. Mikado, en effet, ce n'est pas un hasard de prendre ce surnom pour votre personnage principal et donner le titre du film. On retient, nous, le jeu d'adresse, mais il y a sûrement d'autres valeurs que vous avez voulu faire passer, Maya.
Bah, c'est sûr que... Il a un peu son enfance sur le dos, ce personnage, en permanence. Et j'avais envie qu'il ait un objet, parce qu'il est, comme le disait Félix, il est très très nerveux.
Oui.
Et moi, j'adore cet objet qui est le Mikado, parce que c'est un jeu qui raconte plein de choses.
De déséquilibre, d'équilibre.
De déséquilibre, comment on fait pour enlever, si on enlève une baguette, est-ce que le reste...
Est-ce qu'on fait tomber le reste ?
Voilà,
est-ce qu'on est ambitieux pour prendre la baguette qui coûte le plus de points ou pas ?
C'est vrai, aussi.
C'est stratégique. Hein.
Aussi, il y a plusieurs niveaux.
Vous m'avez donné envie de rejouer au Mikado.
Moi, je joue très souvent.
On n'y joue plus assez.
Ah, je suis d'accord. Moi, j'ai un Mikado même géant pour jouer.
C'est génial, les Mikado géants.
Faut toujours que t'es mieux que les autres.
Moi, j'adore les Mikado, mais après, ça fait toujours peur. Quand on a des petits-enfants, ils adorent et on a peur qu'ils se fassent mal avec.
Ils se crèvent un
œil. Enfin bref, le Mikado, ça a occupé beaucoup de temps chez moi.
Tout de suite, l'œil.
Bah oui.
Et alors, je croyais qu'il y avait aussi une connotation d'un empereur japonais.
Celle-là, je l'ai découverte.
Pardon.
Non, c'est vrai, j'ai découvert ça. J'ai pas beaucoup de culture, mais j'ai appris ça du coup.
Moi non plus.
Que quoi ?
Grâce à ce film.
Bah, je sais pas, il y a un empereur.
Un empereur, apparemment un peu tyrannique, et des gens me disent que que ça viendrait de là.
Ouais, que c'était symbolique dans le film. Ouais.
Mais en fait, je l'ai fait, mais sans le faire exprès.
Bah, dites que c'est fait exprès, ça marche.
Ouais, ouais, pardon. Alors oui, il y a un empereur qui s'appelle Mikado.
Après de longues recherches, je me suis rendu compte que...
Et je me suis dit que c'était intelligent quand même d'avoir cette référence.
Non, parce qu'il a ce côté tyrannique de son petit monde. Et même les coups que Vima Laponce vous donne avec ses insultes, ce côté connard, en fait c'est une espèce de déclaration. Elle est clairement folle, amoureuse de son mari, et en même temps elle n'arrive pas forcément à le suivre dans ce côté en marge de tout.
Ah non, bah, c'est vrai qu'il
peur,
fait...
Elle a peur même de lui par moment.
Bah ouais, parce que, en fait, encore une fois ambivalent, je crois que j'ai dit 10 fois le mot en quelques minutes.
C'est un joli mot.
Mais parce qu'il a mis en place cette espèce d'utopie pour sa famille et pour ses enfants, cette vie tout à fait en marge de la société, dans un van, proche des éléments, du soleil qui frappe sur les peaux, des lacs, de la vie dans la nature, et en même temps...
Et d'apprendre beaucoup des expériences de la vie quotidienne, de la main, des gestes de la nature, pas une intelligence forcément dans les livres, même s'il y a des livres dans le van, mais
pour la petite adolescente, qui dit beaucoup. De 13 ans, qui dit beaucoup, mais et en même temps, donc il fait vivre cette utopie à sa famille, tout en leur imposant.
Oui. Et en même temps, dès qu'il reçoit de l'affection et de la tendresse, la scène qui scelle tout, c'est quand il veut s'en prendre au personnage de Ramzy, et qu'il comprend que le personnage face à lui ne lui en veut pas, et qu'il regarde avec tendresse et qu'il lui raconte à cœur ouvert que lui aussi c'est difficile, comme si c'était un enfant qui avait tellement jamais reçu de tendresse que tout d'un coup, c'est avec la tendresse du monde extérieur, on ne l'en reçoit pas tous les jours, mais comme si tout d'un coup, il fendait l'armure, quoi.
Bien sûr.
Y a un truc très beau, c'est un petit garçon, en fait, Mikado.
Clairement, un enfant blessé, traqué, et on comprend... Au fur et à mesure que le film avance, on s'ouvre sur cette enfance brisée qui a été la sienne.
La reprise de la célèbre chanson de Nino Ferrer, là aussi on imagine avec un soleil qui écrase tout sur son passage, où il écrase tout mais en même temps permet de faire dégager des odeurs, des senteurs, qui fait naître aussi des fruits, la nature, enfin voilà. Ce soleil aussi a beaucoup d'images et beaucoup d'importance. La lumière du film est totalement dingue.
Elle est magique parce que c'est la lumière du sud en plein mois d'août, 45 degrés, elle est assez magique.
Vous êtes tourné où, à Aix?
On a beaucoup
Aix,
à Aix et
Toulon,
Et on a beaucoup utilisé cette heure, la Magic Hour, ce qui d'ailleurs parfois nous obligeait à tourner une scène en une heure et à parfois à la refaire le lendemain.
Qu'est-ce qu'elle a de magique, cette heure?
C'est la douceur du soleil au moment où il va disparaître derrière la colline. Et
entre
on
chien
a,
et loup.
Et puis on a ce rayon très très lumineux qui... Donc on a beaucoup utilisé la lumière naturelle, le chef opérateur Romain Le Bonnier qui... il s'est profité de la nature, et je pense que c'est vraiment présent dans le film. Et de toute manière, c'est un film aussi sur, il dit ambivalent, en tout cas sur des contrastes. Cette chanson, pour moi, c'est vraiment le contraste entre une histoire qui est racontée, qui est très très triste, et la bossa nova, le Brésil qu'on reçoit avec ce rythme, et qui est dans le film tout le temps, c'est-à-dire qu'on est entre rire et larmes.
Et puis le cadre paradisiaque, mais avec les malheurs et la tristesse, qu'elles soient économiques, sociales, politiques, culturelles, enfin voilà.
C'est... Exactement, mais c'était important pour moi de ne pas faire un film social, on va dire, justement dans le gris. Le réalisme social me plaisait pas, j'avais envie de quelque chose de romanesque où ces personnages ils aient la place de devenir des héros.
Non, mais il y a des problèmes partout, même au soleil.
Et puis c'est une manière de refuser que le chagrin ait le dernier mot. Et ça, c'est une éthique de vie que je trouve admirable et que Baya applique dans sa vie en plus. Quotidiennement.
Mikado, vous l'avez compris, on aime ce film actuellement. Il sera demain sur vos écrans avec la réalisation de Baya Kassmi, qui est notre invité aux côtés de Félix Moati, qui porte ce film, mais également Ramzy Bedia, Vima Laponce, et puis ses enfants que je salue encore, Patience Muchenbach, Saul Benchetrit et Louis Aubry. Ça joue bien et c'est un film réussi. On en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Laura Doman.
Oh là là. Merci.
Cette semaine, j'ai discuté avec mon nouveau meilleur ami, car désormais, je suis fâchée avec l'ancien. Voilà ce que c'est que de parler White Lotus. Tout ça parce que j'ai dit que le coupable, bah, c'était...
Non, ouais.
D'accord, pardon. Donc, le nouveau s'appelle ChatGPT.
Ah oui.
Et ouais, bah, trop sympa. Le mec, déjà, je lui dis bonjour. Il me répond bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi, je dis toujours bonjour à ChatGPT parce que j'essaie d'être polie avec lui. Comme je sais qu'il stocke les données, j'aurais trop peur qu'un jour, il me remette tout dans la tronche, tu sais. Le 16 avril à 7h53, tu ne m'as pas dit merci alors que je t'ai donné la recette des lasagnes aux épinards. Et puis après, je me suis souvenu que ChatGPT n'était pas ma mère et qu'il stocke par conséquent moins de rancœur à mon égard. Je demande donc à ChatJep, on est devenus très proches, de quoi pourrait parler ma chronique. Et en tant que femme humoriste, et il me répond, la vie de mère, les relations amoureuses, le travail, les amitiés. Et moi, comme une ado de 12 ans qui se met à la zic, j'aime bien tester un peu les machines. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, trop fort ce son. Donc je lui réponds à mon ChatGPT, pour le titiller un peu, que je suis un homme. Voilà. Et il me suggère les pistes suivantes. Le sport, la technologie, les relations amoureuses. Ce qui sous-entend, en comparaison à la précédente réponse, que quand t'es un homme, les amitiés ne sont pas un sujet rigolo, et le travail non plus. Ce qui est absurde quand on y pense, parce que moi je trouve ça quand même plus marrant d'être payé 15% de plus pour faire le même travail qu'une collègue. Donc bon, est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? ChatGPT est sexiste.
Eh ouais.
What? Comment? Come? Donde está Brian? J'ai mis les choses au clair avec lui, je lui ai dit, dis donc, tu serais pas un peu sexiste? Et là, il me répond, franchement, ta question est super pertinente et merci de me la poser parce que c'est exactement le genre de biais qu'on doit questionner.
Wow.
J'aime pas ce petit ton de connard. Il a pas l'air désolé. Je vais te balancer dans ma chronique, voilà ce que je vais faire. Super idée, je trouve ça génial. Quel faillot. Tu veux que je t'aide à pimenter ça? Je dis, wow. T'essayes de t'approprier ma chronique, là, comme un gros sexiste? Et là, c'est marrant, parce qu'il a mis un temps avant de répondre. Et dans ce temps, moi, j'ai senti un soupir. Je l'ai deviné se retourner vers ses potes robots. Les mecs, je parle à une gonzesse qui me casse les couilles imaginaires. Il finit par m'écrire, oula, non, pas du tout, petite humaine de merde. Il l'a pas dit, mais je l'ai entendu. Et non, non, je ne suis pas sexiste, dans le sens où je n'ai pas une volonté propre de discriminer, mais mes réponses peuvent parfois refléter des stéréotypes. J'imaginais se retourner vers ses potes robots en mode petit coup de coude, et bim, elle l'a pas vu venir celle-là. Alors je fulminais, pardon, mais je te trouve un peu sur la défensive. Tu veux dire que parce que tu n'as pas une volonté explicite de discriminer, ça suffit à dire que tu n'es pas sexiste? Ha! Réponds à ça, tiens, petite intelligence artificielle. Non, elle est pas petite. Ouais, même chez les IA, il y a un concours de qui a la plus grosse. Donc plus sérieusement, il me rétorque, tu fais bien de me recadrer, le sexisme, ce n'est pas juste une intention, c'est aussi et surtout un système, un ensemble de biais implicites. Et que je le veuille ou non, mes réponses peuvent en être le reflet. Tu as raison, l'intention ne lave pas l'impact.
Waouh.
Ah merde, c'est bien dit. Ouais. Il est plus avancé que 90% des gars, c'est chaud. Heureusement qu'il n'a pas de beaux yeux. Alors, je l'ai poussé encore un peu plus. J'ai demandé des conseils en amour. Hein, comment séduire? Pour hommes et femmes, ils conseillent l'humour, mais pour les hommes, ils précisent, ne soyez pas lourds, n'insistez pas. Et je reconnais que je ne peux que lui donner raison, parce que je me souviens encore de ce date qui, pour me séduire, me citait toutes les répliques cultes des comédies. C'est ok! Mes tympans s'en souviennent encore. Ah, mais c'était horrible. Vous imaginez quand, au restaurant indien, il a formulé au serveur pour de vrai, Wakatepe Baboon. Oh la vache.
Oh, wow.
J'ai été obligée de partir sur un champ que ce soir, tu vas pas conclure, Adrien. Ça se voit que c'est pas une femme, ChatGep. Parce que le seul conseil séduction à donner à un mec hétéro, le piège à meuf, c'est prendre l'initiative de faire tourner une machine. En plus, il met saurage délicat. Alors là, c'est porno ce qui se passe. Donc, l'intelligence artificielle est encore à manipuler avec prudence. Ses réponses sont le fruit de notre société imparfaite. Mais finalement, moi qui cherchais un sujet de chronique, bah, il a été d'une bonne aide, je dois reconnaître.
Bravo.
Laura Domange.
En tournée dans toute la France, évidemment.
En tournée, position délicate.
Évidemment. Et le 27 mai, au Théâtre de la Madeleine à Paris, représentation exceptionnelle de son spectacle. Coucou Adrien.
Le 24 mai ?
27.
Ah, 27.
27.
Mais vous êtes le bienvenu.
D'accord. Je suis né le 24, c'est pour ça.
Ah, oh, mais bon anniversaire.
Ah, décale la date, décale. Oui.
Pour lui, ce serait la classe.
Ah, bon, d'accord, allez, c'est décidé.
Pour l'anniversaire de Félix, qui ne viendra pas parce qu'il a réuni déjà des potes.
Ou alors je viens avec mes potes.
Avec plaisir.
Mikado, ce jeu d'équilibre... Total fiction ou vous êtes partie d'un fait réel, d'un fait divers?
Non, il se trouve que j'ai reçu des témoignages, beaucoup de témoignages, mais le temps d'une vie, hein, je me suis pas dit tout de suite je vais écrire là-dessus, mais je connais, j'ai rencontré des gens qui ont vécu ce parcours de Mikado et Laetitia, et les histoires, elles étaient suffisamment frappantes pour que voilà, ça me hante petit à petit, et j'avais envie de parler de l'enfance depuis longtemps. Et par exemple, l'histoire du procès, c'est-à-dire d'être le personnage de Mikado.
N'en dites pas trop non plus.
Bah, d'être accusé.
Et accusé de. Voilà. Et en fait, en gros, je vais me taire.
Non.
J'ai peur d'en dire trop.
Non,
mais
quand t'es la victime et que tu te retrouves accusé, voilà.
Exactement. Il a lui-même souffert et au lieu de ça, il se retrouve accusé, il doit répondre à la justice, il est condamné. Et il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à.
C'est bien fou.
Voilà. Et ça, on me l'a raconté et ça, c'est resté pendant longtemps. Et je trouve que ça valait un film.
Mais c'est que, non seulement ça, mais en plus, comment tous ces personnages se construisent, certains en ayant ce sentiment d'injustice, d'autres en n'existant pas, parce que le problème aussi, est-ce qu'on existe quand on n'est pas déclaré,
quand on n'est pas à l'école,
quand on n'est pas dans le système
autres.
Et quand on n'est pas regardé, et quand on passe des heures sous des couvertures parce qu'il y a un contrôle de police, parce qu'il y a un voisin qui observe, parce qu'on a cette suspicion en permanence d'être repéré.
C'est des personnages qui ont manqué du regard des autres et qui sont en colère et qui, mais en même temps je crois que ce qu'on accompagne et ce qu'on suit, c'est aussi leur énergie vitale et ils font un chemin quoi, et pour moi c'était important aussi parce que dès qu'on parle des gens qui ont eu une enfance douloureuse, hein, que ça soit pour parler aujourd'hui, c'est génial parce qu'on arrive quand même à parler de certaines choses qu'on ne voulait pas entendre avant.
Ouais.
Et en même temps, moi, ce qui m'angoisse beaucoup, c'est quand on dit quand on a une enfance pareille, on s'en sort jamais. Des choses de ce genre-là.
Et c'est ça le combat.
Condamner un peu, voilà.
Comment se reconstruire après avoir subi
Non, je voulais que ça aille vers la lumière parce que je pense que malgré les difficultés, les gens qui ont vécu une enfance comme celle-là, ils ont aussi une énergie de vie qui est presque beaucoup plus forte que les autres.
Non, et la question c'est comment réparer ses blessures d'enfant et comment devenir soi-même maman ou papa, comment se construire à partir de ces blessures. Ben, écoutez, on en parlera avec une thérapeute conjugale et familiale, Déborah Schumann, qui sera notre invitée dans quelques instants. La musique dans vos vies, il n'y a pas que la BO de ce film. Mikado, demain au cinéma. On peut partir dans les années 80, fin des années 80, début 90. Avec vous, Baya, vous écoutiez Nirvana.
Ah, la batterie.
N'a pas pris une ride.
Non, et puis moi c'est ma grande tristesse, je l'ai jamais vu sur scène, j'avais pas assez de sous pour me payer la place, et c'était sa dernière tournée, je l'ai raté, et j'étais folle de lui, voilà. On peut réécouter ce qu'il a fait, ça se démode jamais.
Et à cette époque-là, on vous retrouve au collège avec déjà une passion pour le cinéma, pour les films, pour le club audiovisuel, l'option audiovisuelle avec Madame Laurent. Mais j'aimerais revenir sur
Madame
truc.
Oui, Madame Laurent, bonjour.
C'est vrai.
Madame Laurent et Monsieur Laurent, Serge, qui... Madame Laurent était ma prof de philo et Serge Laurent était mon prof de cinéma. Ils sont mariés.
C'est un couple qui était décisif dans votre envie de devenir réalisatrice, actrice. Mais j'aimerais revenir sur la rencontre de vos parents parce que ça m'a fait beaucoup rire. La rencontre entre Catherine, votre mère, et Mohamed, votre père.
Oui, c'est vrai que ma mère n'avait pas... elle revenait des États-Unis, elle n'avait pas de boulot et elle a accepté de remplacer quelqu'un pour tirer les cartes. Donc elle a appris vite fait à tirer les cartes. Et mon père était hébergé chez sa tante qui croyait beaucoup aux cartes. Et donc il l'a emmené là. Et donc ma mère a tiré les cartes à mon père. Elle lui a dit toutes les conneries qu'on dit quand on tire les cartes.
Non, mais dis pas ça, moi j'y crois.
Mais c'était vrai. Ah. Vous allez rencontrer quelqu'un et c'était bon.
C'est
oui,
en face
c'était
de
elle.
C'était elle. Ça, c'est un bon plan de rage. ChatGPT, t'aurais pas dit ça. Tiens, les cartes.
C'est clair. Ah ouais.
Félix, moitié, vous vous écoutiez.
Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises, on va pas perdre notre temps.
On est dans votre enfance. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
Ah, ça évoque mon frère et ma sœur qui sont plus âgés que moi. Mon frère 8 ans de plus et ma sœur 5 ans de plus et
donc en fait c'est, ils donc c'est fans eux
de hip-hop
c'est eux qui passaient la musique quoi.
Exactement, c'est eux, j'écoutais ce qu'ils écoutaient parce que j'étais un petit frère suiveur pétri d'admiration pour mes aînés et eux ils écoutaient Génération à l'époque et ils adoraient la Secret Connection par exemple et donc j'écoutais avec eux et j'étais fan.
90 c'est votre naissance, 24 mai on le sait maintenant c'est votre anniversaire. Vous grandissez dans une famille où vous dites que la tchatch c'est déterminant. C'est-à-dire, pour survivre, il faut savoir tchatcher ou...
Ah, si t'es pas un tchatcheur, t'es mort. Bon.
C'est-à-dire que ça s'exerce sur tout. Le choix du petit déjeuner, la sortie, tout.
Que des filouteries, de filouteries en filouterie.
Ah non, mais la tchatche, c'est pas forcément le bagou n'est pas forcément le mensonge.
Non, bien sûr.
Pas,
non,
pas du mensonge.
J'entends un mensonge inconséquent, comme okay. Quand on ment à sa grand-mère pour lui soutirer deux balles.
D'accord.
Voilà, un truc pas très grave. Mais c'est vrai que c'était le règne de la tchatche. Enfin, moi, j'avais l'impression, en tout cas, j'ai intériorisé l'idée que dans ma famille, il fallait parler en permanence pour essayer d'exister.
Pour avoir sa place.
Voilà.
On est en 2009, Baya Kasmi, vous écoutiez.
Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Tu es mon amour, tu ne l'es pas.
Si oui,
tu
veux faire
tout, vous auriez pu prendre Mon Héritage, hein, parce qu'elle est belle aussi, cette chanson. Pour
ouais, mais celle-là, on
ne
l'écoute jamais. Oui, c'est vrai, Mon Héritage était mieux.
Il y a peut-être une raison. Non, je blague. Alors pourquoi vous l'écoutez, celle-là?
Je ne sais pas, j'adore cette chanson. Il y a une phrase dans la chanson qui dit « J'aimerais compter les jours sur tes doigts ». Rien que ça, c'est tellement joli. Je voudrais compter les jours sur tes doigts.
Leïla.
À cette époque-là, c'est le nom des gens que vous coécrivez avec Michel Leclerc, que Michel réalise pour le coup. Ça rassemble vraiment beaucoup de spectateurs, plus de 800 000, je crois. Et le film continue de vivre avec cette histoire géniale d'une jeune femme interprétée par Sarah Forestier qui veut convaincre des hommes idéologiquement opposés à elle de changer de camp, en fait, par une petite activité sexuelle.
Oui, voilà, elle couche avec ses ennemis politiques pour les retourner. Et
quelle
ça fonctionne.
C'est génial.
Et c'est une arme massive.
Oui, et oui. Et il se trouve que, quand j'étais adolescente, j'ai vraiment... un jour, j'étais avec un copain, il me dit « Oui, je suis avec un pote et tout, désolé, mais il a voté Le Pen. Peut-être que c'est mieux que tu dises pas que t'es moitié arabe et tout, vu que ça se voit pas.
Wow. »
Et je lui dis « What ?» Et en fait, je me dis « Je vais sortir avec lui. » Et après, je vais le larguer, je vais lui faire du mal et je lui dirai que je suis arabe. et je l'ai fait. Et après, un jour, quand on écrivait, je me suis dit, ce serait super
je
d'utiliser.
J'aime bien le blanc
l'ai
après.
Je l'ai oui,
ouais, j'adore. Mais enfin, vous avez quand même embrassé un facho, quoi.
Ouais, mais pour le larguer. Dans l'atroce souffrance.
Mais est-ce qu'il a changé d'avis? Parce que le but, c'est pas tant.
Mais c'est ça.
Faire mal, c'est une chose. Il faut convertir.
En tout cas, l'idée, c'est le faire réfléchir. Oui, moi, je me suis pas lancée dans.
Mais non, mais vous l'avez largué.
Changement de vie, non plus.
Ça n'a fait qu'à grandir sa haine.
Il va devenir encore plus raciste.
C'est de votre faute. Peut-être.
La montée du front, c'est vous. Jordan revient.
Jordan, pardon. Je suis désolée, j'étais méchante.
Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que tous les mecs qui votent plutôt de ce côté-là de l'échiquier politique ont eu un problème avec une baïa à la maternelle, quoi.
Maintenant, je vais être la responsable.
C'est du désarroi.
Tout est de votre faute.
Mais oui, mais je me suis rattrapée avec après le film. J'ai rendu cette histoire.
Après la boîte de Pandore, c'est la boîte de Baïa.
Non, mais je voulais le faire réfléchir et lui dire que voilà, qu'il pouvait tomber amoureux d'une. Enfin voilà, qu'il détestait peut-être les Arabes, mais qu'il pouvait tomber amoureux d'une fille qui l'était.
Et ça vaut un César du meilleur scénario quand même. Au
voilà,
nom des gens, ça marche bien.
Ça nous a donné des belles idées.
Ouais. Félix, moi, dit vous écoutiez vous en 2009-2010. Ça aussi, c'est pour être dans la BO de Mikado.
Ah, j'aime tellement cette chanson.
Elle
m'a accompagné toute ma 20e année, en fait. Quand j'avais 20 ans, je sais pas, ça se prêtait bien au léger effritement qui va avec cet âge, je trouve. Cet âge un peu étrange où tout risque de s'effondrer plus ou moins. Et bah,
Alors ce sont deux frères qui se détestent quand même. Ce qui n'était pas le cas de votre fratrie. Les deux frangins des Kings, c'était...
Ah c'est vrai, je savais même pas.
Waouh. Oasis à côté, c'était Daniel Mignotte. Hein.
Ah bon. Ah bah je...
Ouais, c'est très 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 tendu entre eux.
Et à cette époque-là...
LOL.
LOL, absolument. Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Christia Terré aussi. Vous avez quel âge?
Quand j'ai tourné LOL, j'avais 17 ans et quand le film est sorti, 18.
Et c'était pas votre première fois sur grand écran?
Ah si, c'était ma première.
Ah mais alors votre père, vous avez pas fait tourner dans...
Non, mais ça c'est un mythe.
Ah bon, c'est pas vrai, cette info, j'avais cru.
C'est un mythe, c'est pas votre père ou c'est un mythe?
Mon père est mon père, moi je l'espère. Mais,
c'est pas un coup de chat là que vous me faites ça?
Non, je vous jure, je vous filme pas. Mais par contre, c'était la première fois à l'écran, c'était LOL, ouais.
Et c'est une prof de théâtre en fait qui vous a inscrit?
Un prof de théâtre, Nicolas Parienti, qui m'a inscrit au casting. Avec tous mes amis, enfin une bonne partie de mes amis, et j'ai été pris.
Et avec joie pour vos parents de vous voir emprunter ce chemin-là, artistique
Inquiétude d'abord. Avant la joie, il y avait beaucoup d'inquiétude.
Papa voulait quoi? Que vous soyez un peu plus...
Je pense qu'il visait des choses modestes, comme chirurgien cardiaque, ou président de la République, directeur du Parti Socialiste, je ne sais pas.
Il aurait pu faire un doc.
Enfin, vous auriez été au chômage aujourd'hui, donc c'est dommage.
Oui, voilà. Mais maintenant, la joie, oui, bien sûr, et ravi d'avoir fait LOL quand j'avais 17 ans, un grand enseignement.
Ouais, et puis c'est un film qui a marqué aussi une génération et une période, absolument. Déborah Chemin-Antonio nous a rejoint, bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, vous êtes thérapeute conjugale et familiale. La question qu'on a évoquée tout à l'heure, lorsque l'on subit des traumatismes en étant enfant, comment on reconstruit une nouvelle famille sur ces fondations-là?
Alors je vais partir un peu du départ pour expliquer. C'est vrai que quand on devient parent, on devient un peu l'égal de ses parents. C'est à peu près le seul moment où on arrive à être l'égal de ses parents, puisqu'ils ont toujours une longueur d'avance, forcément. Et donc là, à ce moment-là, se questionne, mais réellement, et c'est un processus psychologique d'ailleurs, pendant même la grossesse, quel parent je vais être. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à se dire...
Pardon, même si on a perdu ses parents à ce moment-là?
Même si on a perdu ses parents à ce moment-là. C'est-à-dire que ce processus, il est inhérent à nous-mêmes, nous ne le réfléchissons pas. D'ailleurs, si on interroge les gens, ils ne vous disent pas « je me suis posé telle ou telle question », mais pour autant, ils se posent ces questions-là. Quel parent je voudrais être? Alors, c'est évidemment un idéal. Hein. Je veux être un parent aimant. Et puis dans ça, on revit en fait déjà, pendant même la grossesse, certains événements de notre enfance. Et on se dit, alors je caricature un peu, hein, mais il y a des choses inacceptables, je ne veux pas les reproduire, j'en veux pas. Il y a des choses formidables, et ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Est-ce que je me sens à la hauteur ou pas? Ça, c'est encore une autre question, mais voilà. Et ensuite, il y a une troisième voie, qui est la construction de ce que nous allons être parents, en gardant certaines choses, et en essayant, je dis bien en essayant, de mettre à distance d'autres choses.
Dans ces trois voies, vous mettez où le fait qu'on se dise « je ne vais pas reproduire ce que mes parents ont fait, et pourtant ».
Et pourtant. Et pourtant, c'est très inconscient, c'est-à-dire qu'en fait, on a une petite partie de nos cerveaux qui s'appelle le cerveau reptilien, et dans lequel on a imprimé des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, je vous donne un exemple très simple, mais qui est accessible à tout le monde. Quand on a des enfants, on ne se dit pas, le jour où ils vont casser un vase, je vais réagir comme ci ou comme ça. Pour autant, le jour où ils le font, on a une réaction immédiate. Ce qui veut bien dire qu'elle est imprimée dans notre cerveau. Donc la question, c'est une fois que ça se produit, comment je réagis? Est-ce que je me dis la réaction était totalement adaptée, ou alors est-ce qu'en effet, ça a une résonance particulière avec d'autres choses? Et là, il faut que je me questionne sur la façon dont je vais être parent, puisque je suis en train de reproduire quelque chose que j'ai peut-être vécu.
Et ça fonctionne pour tous les domaines, c'est-à-dire les valeurs que l'on transmet, les blessures que l'on a subies?
Tout. Et c'est ça qui est terrible. Alors que ce soit du traumatisme très lourd, j'entends par là des violences physiques, des violences verbales, etc. Mais en fait, on a tous des traumas.
Ou même témoins de violences entre ses parents.
Bien sûr.
Alors comment gérer ça? Comment se soigner pour éviter...
J'entendais tout à l'heure, oui, on peut soigner.
Que les enfants
heureusement, ça n'est pas perdu. Non, mais je le dis parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'on va vivre avec ça et qu'en fait, on va reproduire. Je déteste cette phrase qu'on entend, un enfant qui a été battu, battra. Pas du tout. C'est pas une évidence en réalité.
Non, mais souvent les psys disent que ceux qui sont des agresseurs ont été des victimes un jour et que le premier rôle qu'ils ont quand ils s'adressent à une victime, c'est de dire ce n'est pas la norme, ce n'est pas correct entre guillemets. Il faut se sortir de l'idée que c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, il faut déconstruire ce qu'on a appris, et en effet, c'est malheureusement parfois de l'expérience que nous découvrons que notre comportement, et puis la comparaison aussi avec les autres, quand nous vivons dans une famille, quand nous nous sommes enfants. Nous ne voyons qu'un prisme fermé.
C'est
en
quand
réalité.
On va chez les copains.
Voilà, on voit, c'est quand on voit les autres où on se dit parfois, c'est marrant, chez eux, ça ne fonctionne pas pareil. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est... Alors, j'aime pas ce mot-là, mais qu'est-ce qui est normal ou pas. Qu'est-ce qui est autorisé ou pas. Et là, je suis obligée, moi, de construire autre chose en me demandant, avec mes propres valeurs, j'ai évidemment celles que mes parents m'ont données, puis moi, je vais en avoir des nouvelles que je vais construire au fur et à mesure de mon expérience.
Oui, mais comme on n'a jamais un regard objectif sur ses propres traumas, ses propres blessures, il faudrait que ce soit d'abord les parents qui suivent une psychanalyse avant de mettre les enfants.
Évidemment, mais j'allais dire, tout le monde devrait suivre presque une psychanalyse, en tout cas se questionner sur un certain nombre de choses. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'en réalité, on a tous plein de traumas. Et quand je parlais de choses dramatiques, mais il y a aussi des choses moins dramatiques. On a tous des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'une phrase, d'un mot, qui ne vient pas forcément de nos parents, d'ailleurs, qui peut venir d'une maîtresse d'école, de copains, de collègues, de en fait, toute notre vie.
L'environnement,
nous sommes confrontés à l'environnement. On ne vit pas seul sur une île déserte. Donc,
mais certains vont dire, c'est trop tard. Je suis adulte, j'ai un âge trop avancé pour...
C'est le foutu pour foutu, quoi.
Pour rattraper 30 ans ou 40 ans de...
Oui, alors qu'en réalité, j'allais dire, il y a plein de moments où on voit ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Il y a plein de moments. C'est des moments très simples quand on fait des colères qui sont, par exemple, totalement inadaptées à la situation. Et que les autres vous disent, mais je comprends que tu sois en colère, mais pas à ce point-là. Tu redescends jamais. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un peu le moment. Et c'est d'ailleurs souvent dans les situations un peu dramatiques qu'on réagit. Quand on perd un amour, quand on perd un job, quand on perd quelqu'un qu'on aimait. Où là, ça permet de se questionner. Et quand on devient parent, a fortiori. Parce que là, soudainement, on aimerait, nous, créer une famille nouvelle avec des nouveaux axes. Et donc, on devrait se questionner. Alors, je dis on devrait parce que tout le monde ne le fait pas, mais on devrait.
Déborah Schumann, Antonio, j'ai l'impression que vous êtes d'accord, Félix, avec tout ce
que... Bah oui, ça me passionne. Moi, je me souviens, ce que vous dites, la réactualisation de sa propre enfance quand on devient parent. Moi, quand je suis devenu père, j'étais obsédé par l'idée d'avoir eu une enfance malheureuse, comme ça. J'avais cette manie de... J'étais persuadé de ça. Et à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas une enfance malheureuse, mais le malheur de quitter l'enfance.
C'est magnifique.
Voilà. C'est beau.
Comment il se l'a raconté?
J'étais content de le dire.
Mais ouais, c'est joli, évidemment. Mais je suis jaloux.
C'est vrai, ça m'a beaucoup ému ce que vous avez dit, parce que quiconque devient parent réactualise son enfance.
Évidemment.
Et a peur aussi de faire peser sur son enfant le poids de ses névroses, de ses douleurs. Voilà.
Mais peut-être que la solution, c'est de ne pas oublier l'enfant qu'on a été aussi.
C'est-à-dire d'avoir un nouveau regard sur lui. Ouais. Parce qu'en effet, ce que vous dites est très juste, c'est que parfois on a une vision, pour plein de raisons, totalement erronée. Parfois, en rediscutant avec nos parents ou nos proches, on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça, en fait, qu'elle était. Et puis surtout, j'allais dire, il faut se réconcilier à un moment donné aussi avec nos parents. Parce que ça sert à rien, cette colère qu'on porte tout le temps, elle n'a pas de sens. Donc,
finir la projection de Mikado par une conférence de Déborah Schumann, Antonio.
Mais sous hypnose, ce que vous dites, ce qui est beau aussi, c'est que ces traumatismes et l'enfant qui est, vous avez parlé de l'enfant qui est en nous, c'est et qu'on voit dans les moments de colère, on le voit, c'est aussi ce qui fait le charme d'une personne en fait. Ces trucs là, quand on rencontre quelqu'un en fait, quand on tombe amoureux ou quand on tombe en amitié de quelqu'un en fait, on c'est de l'enfant. C'est de l'enfant blessé ou pas blessé d'ailleurs.
Vous avez vu l'enfant chez Jordan aussi à l'époque?
Oui, l'enfant était toujours présent.
Il était blessé.
Trop. Merci beaucoup Déborah d'être venue à ce micro. Merci. Déborah Schumann, Antonio, je rappelle, thérapeute conjugal et familial. Voici Bruno Pecky.
Ah oui,
voilà l'enfant de la France.
Je me suis dit, va le faire, mais non.
Les amis, ouais. Pas cette fois. Les amis, je suis tombé sur un article, j'ai direct pensé à vous. En Haute-Garonne,
j'ai peur.
Un collectif de seniors a acquis en coopérative une vaste maison pour y passer ses vieux jours loin de tout EHPAD.
Trop bien.
Ah, bonne idée.
En gros, l'objectif est de vieillir ensemble en créant une communauté solidaire et autogérée. Les 14 coopérateurs ont acheté un bien immobilier de 1 million d'euros.
Ah, waouh.
Là, j'ai eu un réflexe de Suisse vivant à Paris. Je me suis dit, mais comment ils vont faire pour vivre à 14 dans un studio? Non, mais parce que j'ai déjà vu des vidéos du genre, hein, avec 14 personnes dans un même lieu. Il n'y avait pas que des seniors et c'était pas très paisible. Dernière fois que je clique sur un lien que m'envoie Lisa. Bon.
Non.
1 million d'euros divisé par 14 seniors, ça fait pas tant que ça. Mais sachant qu'ils payent en pièces de 1 et 2 euros, ça a quand même été une transaction assez longue chez le notaire. En vrai, je trouve le projet super. Ils ont créé un habitat partagé autogéré pour personnes âgées. Une sorte de coloc hippie pour vieux. C'est génial. Un squat pour les gens qui arrivent plus à plier les genoux pour faire des squats. C'est révolutionnaire. En plus, avec la perte de mémoire, ils doivent jamais s'ennuyer. Tu t'embrouilles le soir avec ton coloc parce qu'il sort jamais les poubelles. Bah, le lendemain matin, tu t'embrouilles avec lui en lui demandant ce qu'un inconnu fout chez toi, quoi. Tout en trébuchant sur les poubelles. Et tous les petits trucs insupportables que font tes collègues, ça aussi, tu les oublies. Je veux dire, moi, mon ancien collègue, jamais il m'aurait viré de l'appart s'il avait oublié que j'avais couché avec sa copine. Puis à cet âge-là, de toute façon, t'es plus monogame. Bah non, tu veux tout essayer avant que ce soit trop tard. En fait, peut-être ça a baisé autant que dans la vidéo que j'ai vue. Hein. La coloc aura sa livraison quotidienne de Viagra en même temps que la dépêche du midi. Et surtout, t'as plus de thunes, donc pas besoin de vivre comme dans une cellule de 6 mètres carrés d'une prison mexicaine. Hein. La preuve avec la maison Haute-Garonne, il y a une piscine.
Ah ouais.
Un grand parc et une salle de cinéma.
Wow.
Ça va être incroyable, les soirées Louis de Funès and Chill. Et comme tout le monde s'endort après 6 minutes, tu tiens 3 semaines avec un seul film. Quoi, donc. Bon, pour intégrer la coloc, tu dois quand même débourser 90 000 euros, ce qui représente un pourboire pour Mbappé, ou un lundi au tribunal pour Marine Le Pen. C'est dommage que ce soit si cher, sinon j'aurais envie d'y habiter. Quoi. Après, je peux peut-être y aller en contrepartie de service. Je veux dire, travailler pour des vieux après un an de bande originale, je commence à avoir de l'expérience. Ouais, vu que je suis brésilien, je pourrais faire prof de portugais pour senior, tu vois, ça ira vite, pas besoin d'apprendre les verbes au futur, voilà, on se concentrera uniquement sur l'imparfait et le conditionnel, ça suffira quoi. Alors ils ont eu cette idée de coopérative après avoir vu un film qui s'appelle Et si on vivait tous ensemble, voilà, heureusement qu'ils n'ont pas regardé La liste de Schindler, ça aurait pas eu le même résultat quoi. Et c'est beau hein, parce qu'ils continuent d'être des citoyens engagés, en ce moment ils manifestent contre la suppression partielle de la ligne du bus 364 qui relie Bérate à Toulouse avec des pancartes non au 49.3, oui au 364. Prends ça Macron quoi, il doit être en flip total. En ce moment Macron doit faire comme eux, il est en train de se faire pipi dessus quoi. Alors selon mes informations, la manif est partie de la place Wilson à Toulouse ce matin et elle arrivera à l'hôtel de ville de Toulouse entre juin et juillet. Comme quoi ils ont vraiment besoin du bus hein. Et leur mobilisation fonctionne puisque cette affaire est même montée à Matignon. Voilà, François Bayrou leur aurait répondu, il vous reste encore de la place pour moi ? Moi je pense que je suis à la retraite d'ici quelques mois et ma femme peut venir, elle se grève du catéchisme et des fessées. Alors plus sérieusement, je trouve cette initiative géniale. Elle réinvente la fin de vie et permet à nos aînés qui sont en bonne santé de garder indépendance et vie sociale dans des conditions merveilleuses. Et je le dis parce que je le pense. Pas du tout, parce qu'ils ont également une saison culturelle dans laquelle ils programment toutes sortes de spectacles. Ah bah moi, je suis dispo s'il faut. Hein. Et si je viens jouer mon spectacle, je demande pas grand-chose. Voilà, juste un petit bout d'héritage. Et pour les dames, je viendrai avec Daniel.
Ah. Yes, merci beaucoup, Becky.
Ah, j'ai ensemble, main dans la main.
Et Bruno, t'es où ?
À Paris, le 29 avril et du 18 au 21 juin à Lyon.
Merci, prends ton temps.
Vous avez parlé des places financières mondiales qui ont dévissé Nagui. Hein.
Oh, merci, Bahia Kassoui et Félix Moati sont nos invités. Nous parlons de Mikado qui sort demain au cinéma.
Coucou Bruno.
Et nos invités Bahia Kassoui et Félix Moati.
Bande originale.
T'as plus coupé pas mal.
Oui, la cadeau, la
Nagui. Tu me dis salut, c'est vraiment en face de moi, les deux de parents.
À quel moment tu parles sans qu'on te donne la parole?
Léla m'a posé une question.
Léla m'a posé une question.
Lève la main.
Faut pas le brimer comme ça.
Non, merci, merci.
Va ranger ta chambre.
Sa crise.
Mikado, ce film absolument. Bah, qui fait du bien finalement, parce que c'est fou à dire, c'est bizarre à le dire comme ça, je suis désolé, mais j'ai pas d'autre sentiment que un sentiment de plaisir à l'avoir vu et de voir, parce que ça finit, voilà, ça, on va pas spoiler, mais en tout cas, voilà, il fait du bien ce film, même si il est fait de toutes ces blessures, de toutes ces fêlures, de toutes ces tous ces traumatismes que finalement chacun balade, et ils ont tous cette quête de liberté, de trouver l'équilibre, d'où la vanne de Mikado, qui est un surnom donné à cet homme traité de connard par Vima Laponce, le personnage en tout cas, parce que elle l'aime, elle l'aimerait peut-être plus moins torturé, peut-être moins fragile, et parce qu'elle a peur que de ses blessures, il finisse par blesser aussi ses propres enfants.
C'est le risque, en tout cas, ouais, c'est sûr. Mais en même temps...
C'est une mère qui veut protéger ses enfants,
bien sûr.
Et qui se demande si le père veut aussi les protéger.
Mais en même temps, c'est tout à son honneur de briser la fatalité de la violence, parce que la violence qu'il a reçue de lui dans son enfance, il ne la reproduit pas sur ses propres enfants. Alors il les protège trop, mais en tout cas, il les protège aussi de sa propre violence.
Il a été baladé de famille d'accueil en famille d'accueil, ouais. Alors que là, il pourrait trouver une forme de stabilité, puisqu'il est, il forme un couple, ils sont ensemble depuis longtemps, ils ont ses deux enfants, donc il y aurait toutes les bonnes raisons de dire, partons sur de nouvelles bases. Or, il a cette épée de Damoclès permanente de se dire, le système n'a pas été de mon côté, donc je ne fais confiance en rien de ce qui vient de l'extérieur.
Exactement.
Je maîtrise tout, comme un dictateur. Mais comme
c'est,
un
oui, c'est sa
son,
peur
son...
qui le guide, ouais. En fait. Quand on est guidé par la peur, c'est difficile. Et puis il y a ce truc que je pense qu'on a tous vécu quand tu fais un premier mensonge. Enfin, cette décision qu'ils ont prise au moment de la naissance de leurs enfants.
De ne pas les déclarer.
Comment on fait pour revenir en arrière?
Ouais, c'est trop tard.
C'est-à-dire qu'à un moment, la décision prise, elle doit être prise jusqu'au bout et c'est cette fuite qui leur pèse tellement.
Et on entraîne tout le monde dans le mensonge. Et ouais. Puis on demande aux enfants de se planquer, de ne rien dire, de ne parler à personne, de ne regarder personne. C'est ce qui coupe les ailes de toute forme d'amitié, de toute forme de connivence, de partage, de plaisir d'enfant, comme on peut l'imaginer. Et pourtant, on est dans un cas très, très bucolique, très champêtre.
Ça devient poétique parce que Nuage, elle n'existe pas et elle l'a tellement intégrée qu'en fait elle a des pouvoirs.
D'autant que il y a Théa qui va débarquer dans sa vie. Elle va la regarder comme la fille qu'elle aimerait être peut-être en la suivant, en l'espionnant, en lui collant peut-être trop. Et l'autre d'un coup dit mais je veux pas. Je veux pas de ça, moi, parce qu'elle aussi, elle est en tension. Elle aussi, elle a subi un traumatisme dans sa vie d'adolescente. Et que va-t-il se passer entre ces différents traumas qui vont s'entrechoquer? Est-ce qu'ils vont se compléter? Est-ce qu'ils vont se soigner mutuellement? Ou est-ce qu'ils vont aggraver la situation? Il y a cette tension aussi permanente de se dire comment ça va finir. À vous de découvrir ce film, qui est une réussite et d'interprétation et de tournage et de lumière et d'histoire et qui a une part d'humanité qui fait du bien. Voilà. Et chacun découvrira peut-être la chance qu'il a ou va peut-être penser aussi quelques blessures que l'on peut porter aussi en soi. C'est demain au cinéma et ça s'appelle Mikado. Voici Tanguy Pastureau.
Hier, Amélie Perrier, dans son flash de midi, midi 4, a parlé de la chute des bourses mondiales. Et là, je vous explique, j'ai un coup de chaud. Je me dis, c'est l'andropause. Avant de réaliser que je risque pas mal de perdre sur ce coup-là. Je prends mon téléphone portable, ce que je fais jamais en studio. Pas par respect pour les autres, non, ça j'en ai rien à foutre. En fait, j'essaie juste d'économiser sur ma batterie. Et je me connecte à mon portefeuille d'actions. Oui, j'ai des actions. J'en ai 4. Donc vous voyez, on n'est pas sur le loup de Wall Street. On est sur le chaton du compte Boursorama de ta mère. Et là, devant mes yeux cernés et ébahis, la réalité s'affiche glaciale. Brutal, j'ai perdu plus de 19 euros. Le prix d'un mojito dans le 11e ou d'un rein d'enfant indien sur le Darknet. Je regarde Nagui, lui aussi est sur son portable, blémi. Il est blanc, je me dis, sa seule chance d'entrer un jour au Ku Klux Klan, c'est maintenant. Puis je le vois taper un texto et il me regarde donc association d'idées, il me l'envoie à moi ou de l'envoyer à son banquier. Je le lis, en majuscule sont écrits les mots Ventoux, Coco, Trump a planté le game. Je m'approche de Nagui, je lui dis, bébé, ne jamais vendre alors que ça baisse. Attends un peu, tu peux me faire confiance, il me reste 42,30€ sur mon PEA. Voilà, je sais ce que je raconte. Nagui sort en hurlant l'inéligibilité de Marine Le Pen et maintenant ça, mais quelle période pourrie. Là, Daniel Morin entre en pleurs. Il est au téléphone avec son producteur. Il lui dit, annule le point virgule, je suis ruiné. Quelle moyenne tournée des stades, j'ai pas le choix, il faut faire entrer la thune. Je lui dis, toi, Daniel, tu boursicotes? Et là, il tire sur son visage, comme Mickey Rourke. Il retire son masque, c'est Jérôme Kerviel. Il dit, oui, c'est moi. Mais comme je ne peux plus passer d'ordre sur les marchés, j'ai l'idée de me déguiser. Je réponds, mais alors, qu'en est-il de Daniel Morin? Kerviel me dit, il est chez lui depuis 15 ans, j'ai pris sa place. Il écrit des sketchs et je l'ai fait en l'imitant avec sa voix sous ce masque. Il ajoute, je fais aussi Pumba, le facochère du roi Lion à Disneyland Paris avec la même voix. Il remet son masque, Daniel revient en studio, Nagui aussi, Nagui revient en studio, je le vois à l'intérieur de ses deux poignets, des traces de lame de rasoir et il a une corde autour de son cou. Je me dis, sans doute un simple appel au secours, rien d'important. Bon. Et je continue à l'écouter Alexandra Lamy nous parler de Panda, parce que l'émission d'hier était un peu bizarre, comme toutes celles de cette année d'ailleurs, et toutes celles des saisons précédentes. Midi 30, on sort du studio. Lisa Delmoitier me dit l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a perdu 5% à l'ouverture. Heureusement que j'ai tout placé dans le trafic de drogue et le proxénétisme. Je rentre chez moi, j'allume la télé, on parle de lundi noir. Je me dis encore une preuve du grand remplacement. Je revois des images de Donald Trump, toujours plus orange, on a envie de le peler. Qui dit que la Chine est le plus grand abuseur commercial de tous les temps. Il a aussi taclé l'Europe et plein d'autres pays. Et il n'y a pas un psychologue dans les locaux pour lui dire si vous en avez après tout le monde, c'est peut-être pas les autres en fait le problème, mais il pourrait que ce soit vous.
tout, monsieur. C'est-à-dire qu'en 2 mois, il s'est fait rouler dans la farine par Poutine et il a essayé de mettre à terre l'économie mondiale. Enfin, c'est un champion. Vous colliez dans le bureau ovale un CE2, il faisait mieux que ça. Nous, ça va, on n'a pas l'air de s'inquiéter parce que hier, alors que toutes les bourses dévissaient, Bayrou suivait le départ d'une course hippique. C'est sa passion. Avec une pouliche dont le jockey portait en casaque les couleurs du modem. Voilà ce que plus personne ne fait depuis le lendemain de la création du modem. Bayrou, ce sont les chevaliers du fiel qui auraient fusionné en une seule personne. Service PMU, apéro, saucisson, quoi. Donc même le jour où LVMH mettra la clé sous la porte faute d'avoir pu vendre des sacs à main aux States, il sera encore là à regarder des pouliches. Soit il a la plus grande résilience de l'histoire, soit il est totalement timbré. Et le pire, c'est qu'ils sont tous comme ça. Dimanche, Trump, qui a quand même déclenché cette guerre douanière, a fait un tournoi de golf, tranquillou gilou. Et aux journalistes qui lui disaient quand même, plus 34% de droits de douane sur les produits venant de Chine. Xi Jinping, déjà, si quelqu'un le tutoie, il le fait fusiller. Mais là, il va tout faire péter, le mec, vous êtes malade. Trump a répondu, il faut parfois prendre un traitement pour se soigner. C'est fou d'arriver à rester zen dans un contexte pareil. Hier, en studio, Holdolaf a fait un petit bruit avec son stylo. J'étais à deux doigts d'appeler un prêtre exorciste pour qu'on désenvoûte la pièce, puis qu'on désenvoûte Holdolaf. Hein, on pourrait faire sortir de son corps Thomas, le démon du calendrier. Qui a pour nom de famille Te Cerise, ça fait Thomas Te Cerise. Mais Trump, on va vers un crack mondial et lui, il est cool, à l'aise, il améliore son swing. Même le Dalai Lama à côté de lui est sur la brèche. Ouais. Tout ça alors que la Chine a mis elle aussi des droits de douane à plus 34% sur les produits américains, que l'Europe essaye de négocier. Hier, Ursula von der Leyen s'est tellement allongée qu'on pourrait la vendre en tant que tapis chez Saint-Maclou. Depuis hier, on parle de récession mondiale possible. Alors, nous, on est déjà ruinés. Hein, donc je pense que Macron va aller soit jouer au golf, soit faire son quintet avec François Bayrou. Aux États-Unis, Bill Ackman, un milliardaire pro-Trump, le supplie de faire machine arrière. Pourquoi ? Parce qu'il voit sa fortune fondre. Son compte en banque, c'est la banquise. Il avait 6 milliards, mais encore 4 mois à ce rythme. Il sert des McFlurry dans un fast-food d'Atlanta. Ce matin, Bruno Pecky, notre chroniqueur en France suisse, avait les larmes aux yeux. Je me suis dit, il s'est fait voler ses cartes de foot. Mais il avait le regard rivé sur la bourse de Zurich, qui s'est effondrée, elle aussi, hier. Et peut-être qu'en fait, vous savez, j'ai une théorie, peut-être un peu absurde, mais peut-être que Donald Trump est un trotskiste révolutionnaire qui avance masqué et qui a choisi le bon moment pour couler totalement le capitalisme. J'en parlais à Jérôme Kerviel hier, qui m'a dit, j'en peux plus de ce costume de Daniel Morin. J'ai répondu, bah, t'as toujours moins chaud que dans celui de Pumba. Il m'a dit, franchement, c'est un peu pareil.
Merci. Il y a une rumeur qui circule comme quoi il serait un espion de Poutine, Donald Trump.
Peut-être aussi. En tout cas, il sera
Jérôme,
samedi
dis-nous.
À Pradine. Voilà, et c'est dans le Lot-Pradine. Et dimanche, il sera à Biarritz.
Très bien. Demain au cinéma, donc Mikado, d'autres événements culturels, Leïla.
On cherche un acteur américain, il est aussi connu pour être réalisateur. Un documentaire lui est consacré sur Arte. Que vous dire en indice pour le trouver ? Quand il réalisait, une ou deux prises maximum par séquence. Il ne perd pas de temps, il est réputé pour être impatient. Il a commencé...
Clint Eastwood ?
Absolument, Clint Eastwood, bravo.
Personnel.
Clint Eastwood a commencé dans des séries B, dans des nanars. Le studio Universal à l'époque disait qu'il détestait sa pomme d'Adam, qui était trop grande. Il avait une tendance à bégayer, à balbutier, ce qui explique aussi que dans les films de Sergio Leone, souvent, il coupait un peu le texte. Donc, c'est pas un acteur hyper bavard, mais c'est intéressant. Mais ils disaient tous aussi qu'il avait une sorte de... Il imposait par sa seule présence. Il n'avait pas besoin vraiment de l'ouvrir et de jacter tout le temps pour être là, fort, sur la pellicule imprimée. Il y a un documentaire signé Clélia Cohen, disponible sur Arte, qui retrace quand même l'itinéraire de cet acteur réalisateur qui est quand même devenu une sorte de figure un peu emblématique des États-Unis, même par son soutien au port d'armes. C'est encore une autre question, mais c'est aussi une image des Américains. Ouais. Est-ce que dans vos carrières, à vous, un petit défaut a pu devenir un avantage ? Est-ce que finalement, une spécificité fait que vous n'êtes pas un acteur comme un autre ? Qu'est-ce qui ferait réciproquement votre spécificité ? C'est plus facile peut-être que Baïa parle de Félix et inversement.
Wow. Top chrono.
Oh là là. Je dirais que la singularité de Baïa, c'est de ne pas croire à
vaccin.
Ni au fait que la Terre soit ronde. Non, c'est de ne pas croire à la tristesse en fait. Et il y a une espèce de négociation permanente avec une pente mélancolique qu'elle n'emprunte jamais vraiment, ce qui fait que elle est dans la vie et dans ses films toujours solaire, et que tous ces techniciens, toutes ces techniciennes, toutes ces actrices, tous ces acteurs ont envie de la suivre aveuglément.
Ouais, ouais. Mais qu'est-ce, ça vient d'où cette,
de cette joie éternelle, moi-même et que je...
ce déni permanent.
Je sais pas. Je pense que c'est une façon de se sauver des choses tristes, et ça marche bien.
Écoutez, la vie de Benigni, un peu,
ouais.
Ouais, ouais. Moi, je pensais au texte d'Alain Souchon aussi, un tout petit peu, ce côté mélancolie joyeuse.
Oui. Oui.
Je pensais au Philippe Winter, c'est parce que j'ai rien dit.
Et pourtant, c'était pas mal. Mais non, mais je crois que déjà, physiquement, tu sais, quand tu souris, t'es heureux. Oui. C'est très bête. Et moi, j'ai ce sourire de gêne. Et Félix a créé ça pour, enfin, a trouvé ça pour le personnage que je trouve sublime, qui me fait pleurer à chaque fois qu'il rit dans le film. Parce que c'est quand même un acteur. Hyper travailleur, qui prépare tout à l'avance, et du coup on pourrait se dire que ça va être un peu dans des rails, et en fait sur le plateau il a une disponibilité totale, et je, alors j'aime bien quand il m'imite parce qu'effectivement quand je crie j'ai une voix,
très
la
aiguë.
Voix qui part dans les aigus, ouais. c'est atroce, et sur un plateau très souvent on est loin les uns des autres, on n'entend pas, donc il, qu'est-ce que tu dis, et là bon là je crie, ça fait très mal aux oreilles. Mais j'étais obligée de lui crier, je lui criais de, quand je sentais qu'il allait se briser comme ça, et que l'émotion montait, je lui criais.
Maintenant tu ris.
Voilà. C'était peut-être pire encore.
Ouais. Ah mais c'est pendant la prise.
Pendant la prise.
Bah, il parle pendant la prise.
Ok. Ouais.
J'aime bien faire ça. Et Félix, il a ce truc. Pourtant, c'est un bosseur quoi. Il aime bien arriver, carré. Avoir tout préparé, m'avoir posé milliards de questions. Et sur le moment, je peux lui dire. Pleure, rit, tout et n'importe quoi, lui parler pendant les prises, mais... jamais il s'arrête. Et il continue à jouer, et je vois dans ses yeux, dans son regard, ce qui se passe. Et j'aime bien, c'est cet alliage chez lui, justement, entre un truc très intellectuel, où il réfléchit à tout,
intellectualise.
Il intellectualise tout, et malgré tout, ça le coupe pas de son... De son corps et de ses sensations en tant qu'acteur. Et ça, c'est assez beau.
Oui, vous avez plein de trucs à dire.
Merci, Bayard.
La question que tu as posée me fait penser à une déclaration qu'avait faite Yannick Noah sur justement la norme et la manière de jouer au tennis, où ses profs lui disaient « il faut faire le geste comme ça et pas comme toi, tu le fais ». Et évidemment, il n'a pas écouté ses profs, il a quand même gagné Roland-Garros. Et il disait à des gamins qui lui demandaient des conseils « si tu as un défaut, cultive ton défaut. Si tu as une différence, cultive cette différence, et ça deviendra ta force. »
C'est très vrai dans tout, parce que souvent c'est le discours des gagnants quand même.
C'est le discours des gagnants. Oui. On interroge rarement les gens qui ont...
Il n'y a personne qui a regagné.
J'ai cultivé mes défauts et regarde ce que ça a donné.
Finalement, ça n'a pas marché.
Peut-être parce qu'il n'a pas cultivé ses défauts, justement, ça n'a pas marché.
Non, mais la spécificité, c'est beau, quoi, quand même.
C'est la différence, ouais.
Autre question rapide, on cherche encore un acteur réalisateur. Comme ça, je vous fais hommage à tous les deux, puisque vous pratiquez ces deux arts. Il a été cinéaste, d'ailleurs il est destiné à ça, il était dans la même promo que Louis Malle et Alain Cavalier, et en fait il a fait 120 films en tant qu'acteur et 2 longs métrages en tant que réalisateur. Il disait qu'il lui manquait une qualité essentielle pour réaliser, c'est l'autorité. Il a réalisé donc 2 films, Le Maître Nageur en 79 et en 73, Une Journée Bien Remplie. Le pitch est assez drôle, c'est un thriller assez avare de texte, encore une fois, qui met en scène un homme accompagné de sa mère en sidecar qui va traverser le pays pour exécuter les jurés qui ont condamné son fils à mort.
Darry Cole.
C'est une sorte de road movie vendetta. Et c'est un grand acteur français qui a une voix absolument exceptionnelle.
Noiret. Jean-Pierre
non.
Marielle.
Non plus.
Jacques Villeray.
Non plus.
Céraud.
Non plus. Jean on l'adore. Il est
toujours vivant.
Il n'est plus, hélas. Il n'est plus. Récemment, on a entendu sa voix dans le film de Michel Hazanavicius.
Oui, Trintignant.
C'est Jean-Louis Trintignant, le réalisateur que je vous propose de découvrir avec sur MyCanal ce thriller, donc Une Journée Bien Remplie, avec Dufillot qui joue le rôle principal, pour montrer aussi que finalement ses aspirations à lui, il le raconte, c'était vraiment de réaliser. Vous avez réalisé aussi, Félix, avec un film aussi, avec un sujet personnel.
Oui.
Bientôt la suite.
Écoutez, j'y travaille, je suis dans les méandres de l'écriture. Donc, voilà.
C'est plus dur le deuxième film, deuxième
le
sujet.
Le passage du deuxième film est très compliqué. Ouais.
Pourquoi?
On n'a pas la même innocence, la même insouciance. On s'interroge sur quel genre de réalisateur on a envie d'être. Plein de vanité qu'on n'avait pas encore pour le premier film, en fait, je trouve.
il faut se demander quel genre de réalisateur on veut être.
En tout cas, je veux dire, question complètement idiote.
Pas de limite, ouais. C'est idiot. Pourquoi se regarder travailler autant
et je suis bien d'accord avec vous. Bon. J'en parle beaucoup à quelqu'un à qui je donne beaucoup d'argent.
Le mélange des genres, c'est un film que vous avez co-signé avec Michel Leclerc pour le Sénat, qui sortira le 16 avril le prochain, ça arrive vite.
On en parlera mardi.
Avec Benjamin Laverne, c'est ça.
Ouais.
Et Mela Bédia qui seront.
Oh là là, vous avez la chance.
Oui. De merveille.
Venez.
Là aussi, c'est une histoire de convaincre l'autre de penser différemment, c'est ça?
Oui, en tout cas, c'est.
Changer d'idée.
En tout cas, Michel Leclerc a mis en présence des gens qui, encore une fois, qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Et c'est un dialogue entre les hommes et les femmes, un dialogue sur une tentative justement de rire et de se questionner aujourd'hui sur au cinéma sur le féminisme, sur comment les hommes peuvent changer, comment ils peuvent c'était assez casse-gueule et je trouve qu'il s'en est sacrément bien sorti.
Ça sera dans la bande originale donc la semaine prochaine. Quant à vous, Félix Moati, vous serez prochainement à l'affiche de Deux femmes en or oui. De Chloé Robichaud et vous venez de terminer le tournage de Des vivants qui sera diffusé sur France 2
avec Benjamin Laverne justement et plein d'autres, Antoine Reinhardt, Cédric Écoute, Anne Stéphane, Thomas Goldberg, Alix Poisson. Et sous la direction de Jean-Xavier de Lestrade, une série sur les attentats du Bataclan.
Avec Sam Carman aussi.
Avec Sam Carman, bien sûr.
Nous adorons.
Meghan Mortham.
Il y a, à partir du 10 avril, vous serez dans la saison 2 de No Man's Land, c'est sur Arte que ça passe ?
Non, je suis pas dedans. Je suis pas dans cette saison 2.
Mais vous la regardez.
Ah d'accord.
Mais je la regarde.
Voilà. Voilà. Mais la saison 2 arrive.
La saison 2 arrive, ouais.
Ok, donc la saison 2 arrive sans vous. Mais
sans moi, ouais.
Très bien. Et quant à votre projet de réalisation, justement, il a une date fixée ou...
Non, pas du tout. Pas du tout.
Un titre encore...
Même pas. Non. Non, je suis vraiment, je tâtonne.
Ok. Je rappelle donc Mikado au cinéma demain, ce film que nous avons adoré. Et allez-y en toute confiance parce qu'il est, il y a une tension, il y a une électricité, il y a une énergie, il y a énormément d'amour. Voilà, à voir demain au cinéma.
Merci Daniel, oui, de l'amour.
De l'amour, justement, et des excuses justement. Désolé pour Baya Kasmi qui était bêtement venu pour faire la promo de son film et qui s'est retrouvé accusé d'avoir favorisé la montée du Rassemblement National.
Ça
vous choque, hein, les auditeurs gauchos de France Inter. Eh ben, nous, dans la bande originale, on trouve ça très bien. Désolé pour tous nos auditeurs fans de météo qui ont particulièrement aimé le choix des prénoms Nuage et Zéphyr dans le film Mikado. Evelyne Delia a même téléphoné pour suggérer s'il y avait une suite. Grêlon, brouillard et anticyclone. Alors, merci Evelyne, mais là, ça risque de faire un peu trop. En même temps, Grêlon pour un enfant moche, c'est plutôt une bonne idée. Désolé pour les fans de Ramsey qui ont découvert ce matin un autre visage de leur idole, un intello à lunettes, à la chemise un petit peu froissée, cultivant un spleen, un verre de whisky à la main. Bon, ouais, attention, on vous rassure. Hein. Ramsey reste surtout un immense escroc, c'est pour ça qu'il a tout notre respect, notre amour.
Le film est réussi avec Félix Moati, Vima Laponce, Ramsey Bedia, Patience, Münchenbach.
J'adore votre version de son nom.
Muckenbach. Je sais pas, il y a un mystère autour de
Saul Benchetrit et Louis Aubry pour jouer les trois enfants, Patience, Saul et Louis pour jouer Nuage, Théa et Zéphyr, le tout réalisé par Baya Kasmi. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci encore.
Cette réussite de Mikado. Demain, c'est Olivier Marchal qui sera notre invité.